RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans une rediffusion de Je pense donc j'agis qui date du 26 septembre dernier, dans laquelle on évoquait un autre sujet tout aussi important sur le front de l'écologie, celui du glyphosate. La Commission européenne venait de proposer de renouveler pour 10 ans l'autorisation de ce pesticide. Et dans le même temps, Emmanuel Macron avait annoncé que la France allait baisser de 30% sa dépendance. C'était en septembre. Et c'est donc l'occasion de bien comprendre plus généralement ce qu'est le glyphosate. Pourquoi est-il si populaire et si décrié à la fois? Et quelles sont les alternatives à ce pesticide? Nos invités vont tout nous dire jusqu'à 11h. Et comme c'est une rediffusion, merci de ne pas appeler le standard. Bonne écoute. Pour nous accompagner jusqu'à 11h et pour parler du glyphosate, on a le plaisir d'accueillir deux invités. Bonjour Philippe Camburet.
Bon.
Vous êtes le président de la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique, c'est la FNAB, et vous allez nous parler des membres qui composent la fédération. Il y en a énormément en France. Bonjour Xavier Robou.
Bonjour à vous tous.
Vous êtes directeur de recherche à l'INRAE, spécialiste en agroécologie, docteur en écologie et en biologie. Merci à l'équipe de Dijon qui vous accueille ce matin en studio. Xavier Robou, je commence avec vous. Qu'est-ce que c'est le glyphosate?
Alors le glyphosate, c'est un herbicide et il est effectivement fameux parce que c'est le premier herbicide utilisé le plus au monde. On dépasse le million de tonnes et c'est le premier herbicide utilisé en France. À lui tout seul, c'est un tiers des herbicides qui sont appliqués sur l'ensemble du territoire métropolitain. Alors c'est un herbicide qui a plusieurs caractéristiques qui le rendent unique et qui font son succès. Il est d'abord, c'est un herbicide total, c'est-à-dire qu'en fait, il touche tous les végétaux et il les détruit. Il est systémique, c'est-à-dire qu'en fait, il migre dans la plante, c'est-à-dire qu'on peut le faire pénétrer par les feuilles avec une pulvérisation, et il va descendre dans le système racinaire qui va détruire aussi. Donc, c'est un herbicide qui est extrêmement efficace pour lutter contre les vivaces, le chardon, le rumex. Et puis, la troisième caractéristique, c'est que son effet herbicide est non rémanent, c'est-à-dire que vous pouvez traiter le lundi et venir semer dans votre champ le mardi sans risque d'affecter ce que vous semez. Son activité herbicide disparaît, ne peut plus affecter les végétaux qui sont concernés après son application.
Donc c'est un effet qui disparaît facilement, rapidement.
Alors, il reste présent dans le sol, lui ou ses métabolites, dont l'AMPA, mais en revanche, son effet herbicide n'est plus activé. Et donc, du coup, c'est d'une grande facilité d'utilisation pour les agriculteurs. Et donc, ça permet d'organiser très facilement des chantiers avec, du coup, l'utilisation du pulvérisateur pour gérer des situations, pour avoir repartir dans des situations les plus propres possibles à l'installation des cultures.
Quel est son usage principal dans l'agriculture, afin de bien comprendre aussi pourquoi il rencontre un vrai succès, mais pourquoi aussi il est très critiqué? Et ça, on en discutera avec Philippe Camburet.
Bien sûr. Sa principale utilisation, c'est de détruire les couverts végétaux et les repousses de culture. Comme je l'ai expliqué, en fait, il touche tous les végétaux. Donc, vous ne pouvez pas traiter au glyphosate un blé une fois qu'il est sorti de terre. Vous pourrez éventuellement traiter des espèces qui sont arbustives, mais il ne faut pas qu'il y ait de feuilles, il ne faut pas les toucher, parce que sinon, effectivement, le glyphosate va pénétrer dans ces végétaux-là et les affecter. Donc vraiment, c'est un herbicide qui sert à rendre le milieu propre avant l'installation d'une culture, ou rendre le milieu propre sous la vigne avant qu'elle déboure, ou en verger sous les arbres, pour installer comme il faut le système d'irrigation, par exemple. Alors cet herbicide, en fait, il existe depuis très longtemps et il a une caractéristique supplémentaire, c'est qu'il est tombé dans le domaine public autour des années 2000 et du coup, tout le monde s'est mis à fabriquer du glyphosate et donc les prix ont énormément baissé. Et donc actuellement, vous pouvez traiter un hectare avec du glyphosate pour moins de 30 euros, ce qui en fait un produit extrêmement abordable. Et c'est évidemment un élément essentiel de son succès.
Est-ce qu'on a justement des données sur son utilisation un peu partout dans le monde?
Alors oui, bien sûr. Donc l'usage que je viens de décrire pour contenir la végétation dans une parcelle, la détruire avant de vouloir faire quelque chose d'autre, c'est l'usage majeur. Il y en a d'autres. Il est utilisé comme dessiquant dans certaines régions normalement où les températures sont plus basses, hein, le nord de l'Europe est un bon exemple, et où du coup on a du mal à avoir une culture qui est synchronisée pour être moissonnée de manière optimale. Et donc du coup les gens 10 jours ou à 2 semaines à 10 jours avant la récolte vont utiliser du glyphosate pour son caractère dessiquant, c'est-à-dire qu'en fait il va faire sécher ces plantes-là, il les tue, mais ça permet du coup d'avoir tous les grains qui seront secs et matures au même moment, et donc du coup c'est pour ça qu'on peut moissonner derrière. Alors cet usage n'est plus autorisé en France depuis maintenant assez longtemps, et en revanche il explique pour la raison pour laquelle vous avez pu trouver des articles scientifiques et ou repris par la presse citant la présence de glyphosate dans la bière par exemple. Ben c'est cette utilisation très proche de la récolte qui fait qu'il y a des résidus à la surface de l'orge, par exemple de l'orge de brasserie, et qui va derrière avoir des traces de contamination de la chaîne alimentaire.
Philippe Camburet, je voulais vraiment qu'on prenne un temps pour introduire cette émission, pour vraiment comprendre ce qu'était le glyphosate. Je vais vous donner la parole. Vous êtes le président, je le rappelle, de la FNAB, la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique, et vous êtes aussi producteur de grandes cultures en Bourgogne. Vous, le glyphosate, est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Vous avez déjà eu cette occasion?
Je suis sur une ferme qui n'utilise plus aucun produit chimique depuis 25 ans maintenant, et je me suis installé depuis moins longtemps que ça, donc je l'ai pas utiliser moi-même. Mais en tout cas, on est nombreux en France, il y a au moins tous les 60 000 fermes bio aujourd'hui qui s'en passent, et de plus en plus de fermes qui ne sont pas encore en agriculture biologique, mais qui s'en passent aussi. Donc faire sans glyphosate, heureusement, oui, on a des preuves que c'est possible aujourd'hui dans toutes les productions. Et cette échéance qui s'offre à nous pour éventuellement finalement lui dire non définitivement, c'est peut-être l'occasion de montrer qu'on peut s'affranchir d'un produit et finalement retrouver peut-être une vraie définition de la souveraineté alimentaire, parce qu'aujourd'hui la souveraineté alimentaire elle semble être suspendue à l'autorisation d'un produit, comme si sans ce produit, point de salut, on serait tous morts de faim. Donc là, j'espère qu'on va enfin prendre cette décision qui va montrer qu'on peut être indépendant d'un produit et qu'on va se pencher sur justement les nombreux exemples qui montrent qu'on peut très bien faire sans.
Voilà, donc on peut s'en passer, mais à condition de trouver des alternatives. Et c'est tout l'objectif aussi de cette émission, je pense, donc j'agis ce matin, c'est de comprendre comment on peut s'en passer véritablement. Xavier Robaud, évidemment, il faut qu'on parle de l'impact du glyphosate, parce que s'il est critiqué, c'est que apparemment, et on va pouvoir en discuter, il aurait vraiment un impact sur l'environnement. Qu'en est-il véritablement? Quels sont les effets environnementaux associés à l'utilisation intensive du glyphosate, Xavier Robaud?
Alors, je ne suis pas spécialiste de toxicologie ou d'écotoxicologie, mais malgré tout, effectivement, je connais un peu ces travaux et je m'en suis servi pour faire les rapports que nous avons rendus sur les alternatives au glyphosate. Et donc, évidemment, c'est un point essentiel de ce dossier, c'est de savoir dans le rapport bénéfice-risque, qu'est-ce que le glyphosate ou l'utilisation du glyphosate génère comme difficulté. J'ai mentionné sa trace dans la chaîne alimentaire. Vous revenez sur un autre point qui est sa dangerosité potentielle liée à son utilisation pour l'environnement. Alors le glyphosate en tant que tel, évidemment, il est avant tout un herbicide et donc il détruit la végétation. Mais cette végétation, elle peut être la ressource alimentaire d'un certain nombre d'organismes. Donc ce qu'on peut constater, c'est qu'à partir du moment où vous utilisez le glyphosate, vous êtes dans une logique d'une agriculture très intensive qui est orientée par l'utilisation du machinisme et de la chimie. Et donc cette agriculture intensive, elle est très belle pour un agronome, c'est très vert, c'est magnifique. Mais en revanche, pour la majorité des organismes présents dans les zones agricoles, il n'y a rien à manger. Il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de mauvaises herbes sur lesquelles butiner. Il n'y a pas d'endroit où on a le gîte et le couvert. Et donc finalement, l'effet indirect de l'utilisation du glyphosate, c'est de favoriser une forme d'agriculture qui elle-même a des impacts très forts sur l'environnement. Et donc, c'est une agriculture qui, évidemment, touche le sol. C'est une agriculture qui utilise assez massivement les pesticides et donc qui va contaminer un certain nombre de compartiments, l'air, le sol et l'eau, évidemment. Donc, après, l'autre effet connu du glyphosate, moins connu du glyphosate, c'est que à des doses relativement élevées, il a une activité antibiotique. Et donc, il est capable de affecter des micro-organismes, notamment des micro-organismes du tube digestif, Et donc des travaux scientifiques montrent que l'absorption de glyphosate inopiné par un certain nombre d'organismes peut affecter leur physiologie, leur fonctionnement et les rendre finalement un peu moins efficaces, un peu moins adaptées à la situation.
Ça, ça
donc il y a des effets indirects. Alors oui, bien sûr, on a ça sur les abeilles, on a ça sur les vers de terre, on a ça sur d'autres organismes. C'est un produit qui est aussi connu pour être toxique pour pour les organismes aquatiques et qui est connu pour avoir des effets sur d'autres micro-organismes présents, typiquement des micro-algues ou des algues dans les sols.
Ouais. À la fois les écosystèmes aquatiques et puis terrestres. Oui. Ça, voilà, ce sont les impacts sur l'environnement. Quid de l'impact sur la santé humaine ? Parce que le glyphosate a été classé cancérogène probable par l'OMS. Et je dis bien cancérogène. Probable, mais par contre, l'Agence européenne des produits chimiques a considéré que le glyphosate, justement, ne pouvait pas être considéré comme cancérogène. Alors, qu'est-ce qu'on sait vraiment de l'impact du glyphosate sur la santé humaine, Xavier Robou?
Alors, on sait qu'on sait pas bien.
Oui.
Donc, il y a des dizaines de papiers scientifiques qui essaient de travailler sur cette question-là. Vous voyez bien que si une équipe est capable de faire tomber le glyphosate en montrant qu'il y a un effet rédhibitoire de toxicité inacceptable, ils seront tout à coup sous la lumière des projecteurs. Donc, il y a beaucoup de recherches. Et donc, évidemment, il y a des résultats. Mais ces résultats, il laisse en suspens le fait que dans les conditions normales d'utilisation du glyphosate, on puisse avoir des impacts sur la santé. Et donc, il n'y a pas consensus sur quelles sont les sources scientifiques que l'on retient pour faire les études. Ça, c'est une différence majeure entre les opinions des uns des autres. C'est quelles sont les sources qui ont été utilisées pour arriver à ces résultats. Et puis après, il n'y a pas consensus sur est-ce qu'on regarde la dangerosité intrinsèque du glyphosate. Et c'est là-dessus que l'EFSA doit se prononcer au niveau européen. Ou est-ce qu'on regarde quelque chose qui est plus compliqué, qui est en fait l'exposition fois la dangerosité, c'est-à-dire le bilan global pour les populations. Et là, ce qu'on voit, c'est que s'il est reconnu dans certains travaux comme ayant potentiellement des impacts, on a par ailleurs peu de traces que son impact soit majeur, contrairement à plein d'autres molécules dont... des perturbateurs endocriniens, je pense au biphénol A par exemple, et ainsi de suite, pour lequel là on a des preuves avérées. Donc en fait la difficulté qu'on a, je vais peut-être prendre une image puis ça va aider, c'est vous êtes nombreux à avoir du gaz de ville dans votre cuisine, et le gaz de ville est connu pour être quelque chose de très dangereux, on peut se suicider avec si on le souhaite, et pour autant vous en avez, pourquoi ? Parce qu'en fait dans son utilisation classique, vous n'êtes pas exposé. Mais le glyphosate c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, c'est sans doute un produit qui n'est pas très dangereux ou pas parmi les plus dangereux. En revanche, le fait de le retrouver dans toutes les matrices fait qu'en fait, tout le monde se retrouve à être exposé. Donc, vous avez vu que, par exemple, des citoyens se sont levés contre le glyphosate en disant « on est tous des pisseurs de glyphosate », sous-entendu « on en consomme et on en retrouve dans nos urines », ce qui est la marque de notre exposition. Et donc là, on arrive sur une difficulté qui est d'actualité pour beaucoup de scientifiques, et qui concerne évidemment les pesticides, mais aussi les médicaments, qui est la question des effets multiplicateurs liés à des cocktails, liés au fait que cette molécule toute seule est peut-être pas très grave, mais dans d'autres contextes, elle inhibe certaines fonctionnalités qui seraient vraiment importantes, et donc en association avec d'autres, elle peut avoir un effet indirect, mais qui peut être quelque chose que l'on ne sait pas bien ou que l'on ne maîtrise pas bien. Et là, on voit qu'en fait, les humains sont affectés quotidiennement par plusieurs centaines ou plusieurs milliers de molécules différentes. Et la question de savoir si le glyphosate est susceptible d'entraîner des effets synergiques avec quelques-unes de ces molécules et générer des effets reste une inconnue majeure, en fait.
Ouais. Philippe Camburet, quelles sont les préoccupations pour les agriculteurs et les travailleurs exposés régulièrement au glyphosate ? Quelles sont vos remontées ?
Alors, dans notre fédération... Les membres qui, qui pourraient éventuellement nous faire des remontées, ce sont ceux qui arrivent en agriculture biologique et qui ont utilisé longtemps ce glyphosate et qui pourraient en voir des effets. On sait que sur les études de santé des professionnels agricoles montrent de plus en plus de cas liés à l'utilisation des pesticides. En tout cas, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on a absolument besoin d'avoir un autre regard sur les mauvaises herbes dans tous les espaces, qu'ils soient naturels ou qu'ils soient cultivés. Tout à l'heure, Xavier Rebout parlait de propreté d'une parcelle. La notion de propreté ou de saleté, c'est purement artificiel comme notion. Hein. Évidemment que si on souhaite faire de l'agriculture avec une seule espèce, c'est comme si on est dans un laboratoire et ça n'a rien de naturel, ça n'a rien de vivant et donc ça n'a rien de durable. Aujourd'hui, le niveau de tolérance que l'on peut avoir avec les mauvaises herbes, il faut absolument le revoir avec un autre regard. Et on a beaucoup d'herbes qui sont beaucoup plus utiles si on les laisse, alors que si on utilise du glyphosate ou un autre herbicide total comme celui-là. L'agriculture au glyphosate, c'est l'agriculture au lance-flamme. C'est un herbicide total, donc on détruit tout et ensuite on reconstruit. Et on détruit des choses qui étaient utiles. La flore, elle est suffisamment diversifiée dans toutes nos parcelles pour voir des équilibres qui s'installent, des plantes très très intéressantes qui apportent le gîte et le couvert à plein d'insectes qui eux-mêmes vont réguler d'autres populations d'insectes. Enfin, on travaille dans un écosystème et avoir dans l'idée qu'on peut avec un produit repartir à zéro, repartir à chaque fois d'une feuille blanche, c'est vraiment à chaque fois se tirer une balle dans le pied parce que on perd tous les bénéfices d'un écosystème à peu près équilibré. Donc par exemple moi dans mes champs, il y a très très peu d'espèces qui sont problématiques et la plupart du temps je laisse plutôt les espèces présentes évoluer et je vérifie juste que le niveau de concurrence par rapport à la culture que je veux privilégier n'est pas trop important. S'il est trop important, à ce moment-là je vais envisager des alternatives et puis on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'on identifie bien la tolérance qu'on peut avoir par rapport aux plantes que l'on dit mauvaises, mais qui la plupart du temps ont des intérêts pour la faune, la flore et puis aussi pour l'agriculture.
Et ça veut dire qu'il faut bien connaître son sol, il faut bien connaître ce qu'on cultive.
Absolument, connaître son sol et connaître toutes les plantes qui peuvent composer la flore de nos sols et savoir quel danger potentiel elles représentent. La plupart du temps, effectivement, dans une agriculture intensive, on a tendance à considérer comme le pire ennemi toute plante qui n'est pas celle qu'on cultive. Alors qu'on sait très bien qu'il y a des synergies qui sont très très intéressantes et des complémentarités et cette biodiversité, on a même tendance à la créer nous-mêmes puisque très souvent on utilise des plantes compagnes, c'est-à-dire des plantes qu'on n'implante pas pour les récolter mais qu'on implante justement parce qu'elles vont servir à la plante que l'on veut récolter. Donc tout ça c'est un autre regard sur l'agriculture évidemment.
Est-ce que vous comprenez, vous Philippe Camburet, les celles et ceux qui dans leurs agricultures leur quotidien utilise le glyphosate?
Alors je comprends que la décision qui est en jeu aujourd'hui puisse inquiéter. Néanmoins, je salue celles et ceux qui ont déjà pris les devants et qui sont déjà dans les recherches d'alternatives et qui montrent par leur savoir-faire agronomique qu'il est possible de faire autrement. Donc la solution de facilité que représente encore aujourd'hui le glyphosate, eh bien, comme toute solution de facilité, elle est plutôt à mettre de côté et essayer de progresser en cherchant des alternatives. Donc je comprends l'inquiétude, évidemment, mais j'inciterai chaque jour plus que le précédent à rechercher les alternatives et puis à viser aussi des objectifs d'équilibre entre les plantes sur les parcelles plutôt que d'avoir du sol nu entre chaque rang de vigne, entre chaque rang de pommes ou de maïs. Le sol nu n'a que des inconvénients et s'il est par contre colonisé par des plantes dont on maîtrise parfaitement la croissance, à ce moment-là c'est un bénéfice pour la culture, pour le climat, pour l'érosion dans les parcelles pentues. Enfin, il y a tout un tas d'intérêts à avoir des plantes dont on ne vise pas forcément l'intérêt économique, mais qui sont là pour rassurer des équilibres qui sont parfois malheureusement de plus en plus difficiles à atteindre, tellement on utilise des produits violents pour la plupart des espèces.
Vous écoutez une rediffusion. Merci de ne pas appeler le standard.
Xavier Robout, je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'INRAE, spécialiste en agroécologie, docteur en écologie et en biologie. Si vous êtes avec nous tous les deux ce matin, c'est pour parler du glyphosate et notamment parce que il y a eu une annonce de la Commission européenne, qui a proposé de renouveler pour 10 ans l'autorisation de ce pesticide, un peu à la surprise de tout le monde, j'ai l'impression, Xavier Robout.
Alors oui et non, puisqu'en fait en juillet on avait déjà vu venir le coup, puisqu'en fait il y avait eu le rapport de l'EFSA qui concluait que avec les connaissances à leur disposition et après le travail de quatre pays rapporteurs et plus de plusieurs milliers de documents consultés, ils ne voyaient pas de problème majeur avec le glyphosate, ce qui ouvrait la porte à cette proposition de réautorisation. Alors il faut bien comprendre ce que c'est que cette réautorisation. En fait, les produits utilisés en agriculture, les pesticides, vont devoir passer à travers deux filtres pour être utilisables par les agriculteurs. Il y a un filtre qui a lieu à l'échelle européenne, dans notre cas, qui est l'homologation de la matière active, donc le glyphosate, là en l'occurrence. Et puis après, à partir du moment où le produit est homologué en Europe, ça ouvre la porte pour qu'il y ait une autorisation des produits formulés qui contiennent du glyphosate, mais qui ne s'appellent pas glyphosate, ça peut s'appeler Roundup en l'occurrence, par exemple. Et ça, ça a lieu à l'échelle des États. Et donc, ça va donner lieu à des autorisations de mise sur le marché. Et le pays, en fonction de ses conditions propres, de l'existence ou non d'alternatives sur son territoire, de l'existence d'autres produits faisant la même chose et le faisant mieux, peut décider que le produit, bien qu'autorisé à l'échelle européenne, ne soit pas utilisable sur son propre territoire. Donc c'est bien ces deux niveaux-là. Donc là, on est sur la première partie, l'Europe, sur la base d'une analyse de toxicologie, d'écotoxicologie, de compléments d'informations qui ont été demandés, conclut que cette molécule, au même titre que d'autres, ne présente pas a priori de problème majeur potentiel venant s'opposer à ce qu'il soit autorisé pour poursuivre le processus d'homologation.
Ouais. Et dans le même temps, Emmanuel Macron présentait ses annonces dans le cadre de la planification écologique et il a fixé un objectif de réduction de 30% de l'usage du glyphosate par les agriculteurs. Moi, je voulais vous poser la question de l'articulation entre les décisions européennes et françaises, même si la décision européenne, pour l'instant, est en projet. Donc, là, vous avez déjà répondu, c'est-à-dire que ce sera à la France d'accepter ou non je trouve plus mes mots, mais vous allez m'aider, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire.
Absolument, voilà. Je vais essayer de le reprendre. La Commission européenne dit, dans notre part du travail, il faut qu'on s'assure que la molécule ne pose pas de problème de santé pour l'environnement et pour les humains. Et sur la base des connaissances et du rapport d'expertise que nous avons eu et qui a nécessité un an supplémentaire, d'où la dérogation d'un an pour utiliser le glyphosate qui normalement devait s'arrêter en 2022 et pas en 2023, sur ces éléments-là, cette molécule est considérée comme pouvant faire partie du panel des molécules utilisables en agriculture. Voilà, c'est ça que dit l'Europe. Et après, la Commission européenne dit c'est aux pays de prendre leurs responsabilités et de vérifier quels sont les usages qui, sur leur territoire, relèvent du bon sens et méritent d'être soutenus, et quels sont les usages qui n'ont pas lieu d'être, pour lesquels il n'y a pas besoin de mettre d'autorisation d'utilisation de cette molécule. Donc ce n'est pas incompatible. L'Europe dit le glyphosate, sur la base de l'évaluation, est une molécule qui est utilisable au même titre que d'autres en agriculture, et Emmanuel Macron dit la position française qu'il espère derrière pouvoir étendre à l'ensemble des pays européens, c'est de dire ok, le glyphosate fait partie des molécules potentiellement utilisables, ça ne veut pas dire qu'il faut l'utiliser tout le temps, et donc est-ce qu'on peut fixer un horizon et ou une ambition qui soit de l'utiliser uniquement quand on en a vraiment besoin. Alors on est déjà dans cette situation en France, en fait à partir de 2020, l'ANSES a travaillé sur les conditions d'utilisation du glyphosate en France et avait acté sur la base de résultats qui étaient les propres siens mais aussi qu'on leur a confiés En tant que scientifique, on a été amené à écrire un certain nombre de rapports qui ont été utilisés à cet effet pour essayer de regarder quand est-ce que le glyphosate est utilisé par facilité et quand est-ce que le glyphosate est vraiment utilisé parce qu'on n'a pas beaucoup d'autres alternatives possibles. Alors j'ai très bien entendu ce que dit Philippe et je crois qu'il a parfaitement raison, c'est-à-dire que les agriculteurs en agriculture biologique montrent tous les jours qu'on sait faire de l'agriculture sans le glyphosate. Alors pour autant, quand on avait travaillé en 2017 sur les alternatives au glyphosate, on avait aussi identifié trois conditions dans lesquelles le glyphosate est assez incontournable. Alors la première, c'est quand vous êtes sur des vignes dans des pentes très fortes et ou des terrains qui sont extrêmement caillouteux, en fait, vous n'allez pas pouvoir faire de désherbage mécanique. Donc, soit vous pouvez implanter des couverts végétaux, mais il n'y en a pas forcément dans toutes les situations, soit effectivement, vous êtes amené à utiliser une solution de désherbage. Et à ce moment-là, le glyphosate, de son caractère systémique et total, et son bas prix est privilégié par les agriculteurs.
Donc ça, c'est une première utilisation incontournable pour vous.
Ben, en fait, on voit bien que on a des difficultés extrêmement sérieuses si on veut faire autrement, parce que on va pas pouvoir passer d'outils de désherbage mécanique et on peut pas imaginer ne pas déstabiliser les sols, augmenter les risques d'érosion, augmenter le risque de ruissellement et que la terre descende dans ces parcelles-là. Donc c'est une situation où on n'aurait pas dû sans doute faire de vignes, où on aurait dû avoir encore des fermes dans lesquelles il y a beaucoup de monde et où on peut faire ce travail-là en étant nombreux pour rentrer chaque fois dans les parcelles. Dans les situations actuelles, avec une diminution de la taille de la population agricole, on est en manque de main-d'œuvre et de fait, ces viticulteurs-là peuvent être coincés. L'autre situation qu'on avait identifiée, c'était le cas de l'agriculture de conservation des sols. Alors c'est une agriculture un peu particulière et pareil, Philippe en a parlé en disant en fait si on est capable de choisir la flore que l'on veut dans sa parcelle, on peut tout à fait retenir des espèces qui sont très favorables, qui fixent l'azote, qui posent pas de problème majeur et on peut cultiver dans ces couverts végétaux-là. Alors c'est difficile, il faut effectivement arriver à les gérer pour qu'ils ne fassent pas concurrence à la culture quand on l'installe ou quand elle veut se développer. Mais pour autant, effectivement, c'est une forme d'agriculture qui a émergé parce que le glyphosate existait et qui permet, juste avant l'installation des cultures, de calmer et ou de détruire la végétation pour installer la nouvelle culture. Cette agriculture de conservation des sols, elle est basée sur le fait qu'on diversifie les rotations, qu'on ne travaillera jamais le sol et qu'on a des couverts végétaux. Alors, ne travailler jamais le sol et ne pas utiliser du coup de désherbage mécanique pose une réelle difficulté. Comment est-ce qu'on fait pour entretenir ces parcelles-là? L'agriculture de conservation en sol utilise le glyphosate.
Et la suite de cette rediffusion de Je pense donc j'agis sur le glyphosate, c'est dans un instant. À tout de suite.
Vous écoutez une rediffusion. Merci de ne pas appeler le standard.
Avec nos deux invités jusqu'à 11h pour bien comprendre ce qu'est le glyphosate, pourquoi est-ce qu'il rencontre un succès important dans le monde et pourquoi il est tant critiqué. Xavier Roubou, je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'INRAE et spécialiste en agroécologie. Et puis Philippe Camburet, président de la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique, la FNAB, et vous êtes également producteur de grandes cultures en Bourgogne. Philippe, vous ne m'en voulez pas, j'ai donné la parole à Xavier, le scientifique pour bien comprendre hein, l'utilisation du glyphosate. Philippe, comment avez-vous reçu les annonces respectives à la fois de la Commission européenne et puis d'Emmanuel Macron qu'on a évoqué il y a quelques instants?
C'est décevant parce que je crois qu'une fois encore, on va céder à la facilité, céder à la fuite en avant avec comme objectif de produire toujours plus avec toujours moins de coûts, et cette fuite en avant, elle va malheureusement éloigner le regard de l'agriculture, des solutions, l'agriculture qui sait rester indépendante justement de ces technologies innovantes, qu'elles soient en machinisme, en matériel ou bien en chimie. On entretient la dépendance. Donc moi j'attendais des annonces beaucoup plus ambitieuses. 30% effectivement, on va y être assez facilement. L'État a déjà donné de l'argent public sous forme de crédit d'impôt aux agriculteurs qui s'engagent à ne plus utiliser le glyphosate. Je pense que c'est un dispositif qui va être reconduit. On sait que vu son coût, il est possible de créer des stocks importants à l'avance pour d'éventuelles restrictions d'usage. Donc moi cet objectif de 30%, franchement je le trouve très très décevant. Et je voudrais qu'on regarde justement ce qui va se passer en Europe. Aujourd'hui, l'Allemagne s'est clairement prononcée contre cette potentielle réautorisation, repartir pour 10 ans de glyphosate. L'Allemagne va dire non. Regardons au moins ce qu'il est possible de faire avec un petit peu de courage politique. L'Allemagne, c'est loin d'être la dernière puissance agricole en Europe. Eh bien, on est capable de prendre ce courage-là et enfin de regarder vers l'avenir. Parce que pour moi, continuer à baser notre agriculture sur un usage massif de ce produit-là, mais de beaucoup d'autres, c'est quand même vraiment pas rassurant en tant que citoyen en plus, parce que en tant que citoyen, je vois bien tous les effets que ça peut avoir et j'imagine bien à quel point, ça a été dit tout à l'heure fort justement, les études qui sont faites sur les conséquences du glyphosate sont pas satisfaisantes aujourd'hui. L'effet cocktail, il est la plupart du temps balayé d'un revers de main. On sait qu'on a des nappes phréatiques qui sont de plus en plus polluées et moins rechargées en eau, donc la dilution des polluants est de moins en moins possible. Donc compte tenu de tout ça, j'espérais beaucoup mieux que simplement ces annonces-là. Donc j'espère qu'à côté de l'Allemagne, on a d'autres États qui vont lui emboîter le pas et que enfin on aura un symbole fort en renonçant à cette réautorisation.
Pour vous, il aurait fallu une interdiction totale en France du glyphosate?
Alors le symbole fort, ça aurait été de se fixer un cap et un cap qu'on s'autorisait à atteindre progressivement. Je ne demande pas l'interdiction l'année prochaine absolue, mais au moins qu'on donne le signal et qu'on n'en sorte pas. Emmanuel Macron avait déjà annoncé la fin du glyphosate en France, hein. Il faut s'en souvenir. On en est loin aujourd'hui, et ça prouve bien que c'était une parole en l'air. Aujourd'hui, on aurait très bien pu se fixer un objectif à 2, 3, 5 ans, avec des réductions et qu'on s'y tienne. Là, pour moi, 30%, c'est vraiment une non-annonce et c'est la politique des petits pas, malheureusement.
Ouais. Juste avant la pause, Xavier Roubou commençait à lister quelques situations où le glyphosate pouvait être vraiment indispensable. Il parlait des vignes et également de l'agriculture de conservation des sols. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Philippe Camburet?
Alors, il y avait deux situations. Effectivement, les sols en pente, où il n'est pas possible de travailler mécaniquement. Et justement, la question que Xavier a posée, c'était l'usage. L'usage des sols agricoles en France. Est-ce qu'aujourd'hui, il est raisonnable de vouloir cultiver tout et n'importe quoi partout? Eh bien justement non, peut-être qu'il faut se re-questionner sur... Alors bien sûr que c'est très difficile à entendre pour mes collègues qui sont concernés, qui ont réussi à implanter certaines cultures dans des endroits où ils voudraient bien la conserver. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui est intéressant? Est-ce qu'il n'est pas possible de se retourner vers d'autres cultures qui auront peut-être bien plus d'avantages en matière de résilience par rapport au changement climatique, par rapport au risque d'érosion, et puis quand bien même, est-ce que on a vraiment tout essayé dans ces cas-là? Est-ce que l'enherbement, c'est-à-dire laisser pousser naturellement de l'herbe entre les rangs de vignes, a vraiment été exploré à fond? Est-ce que l'entretien par des animaux, des moutons, des chèvres ou d'autres qui peuvent réduire la pression exercée par ces plantes entre guillemets concurrentes, mais qui finalement peuvent être beaucoup plus intéressantes que concurrentes, est-ce qu'on a vraiment tout essayé? Je crois pas, et j'ai bien peur que la plupart du temps, comme avec d'autres technologies, on se réfugie dans la solution de facilité. Et en ce qui concerne l'agriculture de conservation des sols, bah évidemment, évidemment que travailler le sol le moins possible, c'est bien, mais tant qu'on reste finalement dépendant à un moment donné de l'utilisation d'un herbicide total, donc on l'a dit, mais il faut le rappeler, hein, d'un produit qui détruit tous les végétaux. Ouais. Finalement, est-ce qu'on fait vraiment de la conservation des sols? Est-ce qu'il n'est pas possible d'envisager des techniques alternatives qui soient moins dépendantes d'un herbicide total? Je pense qu'on a beaucoup de recherches à faire en matière de nouveautés agronomiques. L'innovation agronomique doit être plébiscitée par rapport au choix technologique d'un produit ou d'une machine.
Mais ça demande de repenser les habitudes, également les méthodes d'agriculture. On a une auditrice tout à l'heure, Marie-Josée, qui nous a envoyé un mail en disant le meilleur moyen pour nettoyer les vignes, je trouve ça très intéressant, vous allez vraiment me dire ce que vous en pensez, c'est d'utiliser un troupeau de moutons qui passait dans les vignes tout l'hiver et qui fertilise en même temps les sols. Les anciens faisaient cela. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Canguret?
Voilà, ça fait partie des alternatives qui sont en pleine croissance aujourd'hui. On a beaucoup d'expérimentations et les scientifiques sont là justement pour évaluer les impacts que ça peut avoir. Et quand bien même on perdrait quelques pourcents de rendement, on sait qu'aujourd'hui, hein, notre agriculture, elle est super productrice, à tel point qu'on se permet de gaspiller un quart, voire même un tiers de tout ce qu'on produit. Donc là, on pourrait très bien se permettre de perdre quelques pourcents de rendement. Si en échange, on a un sol qui vit mieux et des plantes en meilleure harmonie, et qu'en plus, on peut produire, pourquoi pas, un troupeau en bonne santé, eh bien, je pense que cette combinaison-là est beaucoup plus intéressante plutôt que des plantes toutes seules sur leur espace et avec du sol nu à côté.
Ouais. Selon je comprends en vous écoutant tous les deux ce matin, voilà, c'est qu'il y a vraiment une période de transition vers, on va dire, des pratiques agricoles durables, si on devait un peu résumer. Xavier Robou, est-ce qu'il y a des avancées technologiques ou des approches assez prometteuses dans ce domaine?
Alors oui, il y en a déjà plusieurs qui sont sur le marché et que les agriculteurs utilisent, y compris pour du coup diminuer leur utilisation du glyphosate. Et donc, il faut qu'on revienne un tout petit peu sur c'est quoi les alternatives possibles. Bah oui. En fait, il y a trois grandes familles d'alternatives, on n'a pas dit, et Philippe le complétera s'il veut. Mais en gros, le problème qu'on a, c'est les espèces adventices vivaces, les chardons, les rumex, les liserons, dont on a le mal à se débarrasser. Ils sont dans le sol, ils sont là, et chaque année, ils vont ressortir. Et de fait, ils exercent une pression très forte sur les ressources, et la culture dans une tache de chardon a du mal à s'installer et elle produira sans doute rien. Donc du coup, c'est cette peur-là que les agriculteurs veulent gérer. Alors, le glyphosate gère bien les espèces adventices vivaces. Il le fait mieux que beaucoup d'autres produits, et sans doute qu'on devrait limiter son utilisation à cette seule situation. Alors par ailleurs, effectivement, comme il est herbicide total, on l'utilise aussi pour détruire des espèces annuelles, dont certaines sont peut-être dommageables, mais d'autres l'étaient sans doute pas. Alors comment est-ce qu'on fait pour éviter d'utiliser le glyphosate? Eh bien, il y a trois pistes possibles. En fait, il faut se référer à ce que vous avez fait vous quand vous avez nettoyé vos allées chez vous. Soit, effectivement, vous venez avec une binette, et en agriculture, une binette, ça existe sous un autre nom, ça s'appelle le labour, ou la houe rotative, ou le binage, ou une herse. Mais c'est la même idée, c'est on gratouille et on déchausse les plantes et où on les retourne pour les faire disparaître en les enfouissant.
On désherbe, mais de manière manuelle, en fait.
Exactement. Alors ouais. Bon, donc les agriculteurs le font avec un tracteur et des grosses machines, mais finalement c'est l'équivalent de ce que vous faites vous dans votre jardin potager ou pour nettoyer vos allées. Ouais. L'autre piste, si vous voulez pas avoir de mauvaises herbes dans votre allée, c'est que en fait, il y a pas la place pour les mauvaises herbes parce que vous avez mis un quelque chose qui fait barrière. Et donc, en général, c'est du gravier ou quelque chose comme ça. On fait ça dans les cimetières en France, par exemple. Alors, en agriculture, ça existe. On va pas mettre des graviers, évidemment, mais on peut mettre un paillage, on peut mettre des bâches sur des toutes petites surfaces. Ces choses-là sont pratiquées par les agriculteurs qui sont en agriculture de maraîchage, qui sont sur des petites exploitations avec des fortes valeurs ajoutées. Ça, c'est possible pour faire une barrière physique qui empêche que les mauvaises herbes puissent atteindre la surface. La dernière méthode, c'est d'occuper leur place. Et ça, c'est la plus intéressante. C'est-à-dire que, au lieu de laisser venir des mauvaises herbes que vous ne souhaitez pas et que vous considérez comme mauvaises, pourquoi est-ce que vous choisissez pas des herbes que vous souhaitez et qui présentent des avantages, des atouts, faire venir les pollinisateurs, fixer du carbone, stabiliser les sols et ne pas faire concurrence trop forte à la culture, éventuellement être gélive, donc du coup c'est le gel hivernal qui les détruira. Il y a plein de manières de réfléchir ça. Et donc là où je rejoins Philippe, c'est qu'effectivement, on n'est pas du tout encore sûr que les agriculteurs qui utilisent cette troisième piste, d'utiliser des couverts végétaux pour empêcher, pour occuper la place des adventices et donc du coup limiter leur présence, on les donnait aux agriculteurs les meilleures associations d'espèces ou les meilleures variétés pour faire ça. Alors ben vous, vous avez ce constat-là aussi, c'est qu'en fait, vous, dans votre pelouse, où il y a déjà un gazon qui est installé, en fait, il n'y a pas de mauvaises herbes, quasiment pas. Vous allez avoir quelques pieds de pissenlit, deux, trois choses comme ça, mais pas de choses majeures qui posent de problème. Donc on voit bien qu'en fait, en occupant la niche écologique des mauvaises herbes, en fait, vous êtes capable de transformer le système en quelque chose qui vous est favorable. Donc cette piste-là a été proposée et est actuellement dans la réglementation en France, quand vous êtes en arboriculture ou en viticulture, c'est-à-dire en système de culture pérenne, la réglementation sur le glyphosate dit « Vous avez le droit d'utiliser le glyphosate sous les rangs des arbres et de la vigne, mais en revanche, vous ne pouvez pas utiliser le glyphosate dans l'entre-rang. Et cet entre-rang, vous pouvez donc soit l'enherber, soit le désherber mécaniquement. » Ça, immédiatement, ça permet de ne mettre les herbicides que sur un tiers de la surface. Donc si on veut réfléchir, comme disait Philippe, à un horizon ambitieux qui puisse être proposé aux agriculteurs, on aurait pu dire, en fait, il faut descendre à de deux tiers les quantités de glyphosate utilisées et donc viser cette utilisation sur seulement un tiers de la surface. Ça, a priori, c'est possible et les agriculteurs le font déjà massivement.
Ben voilà, ça fait déjà une petite liste d'alternatives au glyphosate. Philippe Camburet, qu'est-ce que vous pourriez rajouter ?
Ça a été mentionné tout à l'heure aussi par Xavier, la question de la rotation des cultures. La rotation des cultures, hein, pour faire une image, c'est multiplier au fur et à mesure des années des cultures différentes à chaque fois. Et en agriculture biologique, c'est la base de notre façon de faire. Et c'est aussi finalement le résultat de l'observation des plantes. On a des plantes qui s'entendent très bien sur le sol et d'autres qui se font des concurrences acharnées. Et donc on essaye d'alterner d'une année sur l'autre à chaque fois des cultures plutôt de printemps, des cultures plutôt d'hiver, des cultures hautes, des cultures basses. Voilà, on a toute une panoplie de cultures à notre disposition qui vont permettre que, au fur et à mesure, eh bien, les plantes adventices vont être gênées parce qu'elles atterrissent dans un nouvel univers, un nouvel environnement, avec un nouvel échantillon de culture en place. Et c'est cette perturbation des habitudes du sol qui va permettre qu'au fur et à mesure, on arrive à maîtriser largement la population des mauvaises herbes, entre guillemets. Et donc, la rotation, c'est notre premier outil, parce que c'est finalement celui qui est le plus facile à utiliser, et puis c'est celui qui marche. Et pour revenir à la situation des plus problématiques, comme effectivement le chardon, la plupart du temps, on sait que il est possible d'agir justement là où il y a du chardon et pas uniquement sur l'intégralité, enfin, et pas se permettre de faire l'intégralité des parcelles. On intervient juste là où il y a du chardon et pas ailleurs. On peut intervenir de façon mécanique, manuelle, éventuellement dans certains cas, mais enfin c'est quand même rare. Oui. Et de toute façon, on s'autorise aussi par moment un travail du sol, mais soyons prudents avec le travail du sol. C'est pas parce qu'on dit travail du sol qu'on va remuer sur 30, 40, 50 centimètres le sol d'un bout à l'autre de la parcelle. La plupart du temps, des travaux du sol qui sont superficiels et sur certaines zones peuvent suffire déjà à ralentir la progression. Donc voilà, une partie de la solution dans la rotation et l'alternance des cultures, et puis une partie avec un travail du sol un petit peu plus important, et grâce à ça on arrive quand même à s'en sortir largement et surtout sans glyphosate.
She
Vous écoutez une rediffusion. Merci de ne pas appeler le standard.
Et toujours avec Xavier Rebout, directeur de recherche à l'INRAE, et Philippe Camburet, président de la FNAB, la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique. Alors je vous lis ce mail d'un auditeur, alors il n'a pas laissé de prénom, on va l'appeler Thierry, il nous dit le glyphosate est obsolète, il a servi pendant un temps soi-disant nécessaire. Aujourd'hui on sait qu'il ne faut pas détruire la terre mais l'enrichir. Il y a des techniques pour ça, purin de cheval, de poule, vive la permaculture, qui a des rendements équivalents et même supérieurs. De plus le glyphosate forme un composé toxique avec le gluten, ce qui induit beaucoup de maladies auto-immunes. Nous sommes en train de couper la branche sur laquelle nous sommes assis. Philippe Camburet, vous comprenez parfois cette colère, non pas de la part des agriculteurs, mais aussi de la part des consommateurs.
Évidemment, je crois qu'il ne se passe pas une année sans qu'on découvre finalement, malheureusement, des maladies nouvelles ou des maladies que l'on pensait restreintes à un seul champ de sensibilité, et bien finalement on s'aperçoit que en amont il y a la présence d'un plastique, il y a la présence d'un résidu de pesticide dans l'eau, et c'est surtout cet effet cocktail dont il est encore question là avec le gluten, mais avec du bisphénol ou avec d'autres. Là on a évidemment des craintes à avoir quand on est consommateur, parce que finalement notre alimentation, elle, on le sait, elle est de toute façon toujours plus transformée avec des additifs, des colorants. Notre armoire à pharmacie, elle est aussi souvent de plus en plus garnie. Et les effets entre tout ce qu'on ingère est finalement aujourd'hui, je pense, pas assez connu. Et donc les inquiétudes, on peut malheureusement que les comprendre. Surtout si on n'a pas la possibilité de se nourrir avec davantage de produits exempts de tout ça, et c'est en ça qu'on voit aujourd'hui des consommateurs se tourner toujours plus vers l'agriculture biologique, même si c'est pas le cas ponctuellement en ce moment. Malgré tout, ils ont montré récemment qu'ils étaient nombreux à plébisciter une alimentation qui leur permettait d'éviter ces risques-là, pas de les limiter, enfin de les éviter absolument, mais au moins de les limiter fortement. Donc les inquiétudes, elles sont là parce que justement, on sait que tout notre environnement, que ce soit l'air qu'on respire, que ce soit les objets qu'on touche au quotidien, ou bien des produits présents dans l'air, on est en permanence exposé. Cette exposition, on la constate, on la documente, mais premièrement, on la documente pas assez, et deuxièmement, on fait, je pense, encore pas assez de choses pour essayer de la limiter.
Je retire ce que j'ai dit, l'auditeur ne s'appelle pas Thierry, c'est une auditrice et c'est Claudette. Merci Claudette de nous avoir envoyé ce mail. Xavier Rebout, en fin de compte, quel est l'avenir du glyphosate et de son utilisation dans l'agriculture moderne ?
Eh ben, si vous savez, on sera bien heureux de l'apprendre, parce que moi, je ferai pas de pari là-dessus. Ouais. Je suis passé par plusieurs phases. Alors, d'abord, juste un complément. J'essaie d'intervenir en tant que scientifique et donc d'être le plus factuel possible dans mes explications. Je peux avoir, au titre de Xavier Rebout citoyen, un avis sur la suite du glyphosate, et partager ou pas un certain nombre d'avis, et voilà. Mais c'est pas le lieu. Donc, j'essaie d'éclairer avec les informations à nos dispositions et montrer finalement pourquoi il y a débat. Peut-être juste revenir sur l'implication des consommateurs.
Oui.
Alors évidemment, Philippe a bien posé les bases, et quand on est sur la question de Claudette sur l'utilisation de la permaculture, cette question-là se pose. Alors la permaculture, elle nécessite beaucoup de temps de travail, on fait sur des toutes petites surfaces. En fait, un des éléments qui a amené à ce qu'il y ait un caractère un peu incontournable, progressif du glyphosate... D'abord, je le dis, c'est parce qu'il est tombé dans le domaine public et qu'il est vraiment pas cher par rapport à ce qu'il fait. La seconde, c'est qu'effectivement, entre-temps, on a beaucoup changé l'agriculture. En 1981, on utilisait quasiment pas de glyphosate. Ça coûtait 150 francs par hectare pour traiter un hectare de glyphosate. Et donc, maintenant, on est bien en dessous de ça. Et on est passé en euros, évidemment. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que en 1950, les ménages dépensaient plus de la moitié du salaire du ménage pour leur alimentation. Actuellement, on est à un seuil où, en fait, l'alimentation, c'est 13% du salaire moyen des ménages. Mmh. Donc, on a divisé par 4 le coût de l'alimentation. Et ça, c'est lié au fait qu'on a eu des gains de productivité absolument énormes, liés à l'utilisation du machinisme et de la chimie. Et de manière associée, en fait, la population agricole a beaucoup diminué. Et donc, vous avez maintenant des agriculteurs qui se retrouvent à la tête d'une très grande exploitation et qui ont du mal à gérer tous les chantiers qui arrivent tous en même temps, oui, et qui ont besoin, du coup, d'avoir des chantiers très rapides. L'utilisation du glyphosate est maintenue par sa capacité à permettre des chantiers extrêmement rapides. C'est pas souhaitable, peut-être, mais c'est une réalité actuelle qui est liée au fait que vous voulez aussi une alimentation qui soit pas chère.
Et c'est déjà la fin de cette rediffusion de Je pense donc j'agis du 26 septembre dernier sur le glyphosate. Encore merci à Philippe Camburet, président de la FNAB, la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique, et à Xavier Rebou, directeur de recherche à l'INRAE, spécialiste en agroécologie et docteur en écologie et en biologie. On se retrouve demain dans Je pense donc j'agis pour parler du populisme à quelques jours des élections européennes. Bonne journée.
Je n'ai besoin de personne pour le rencontrer un jour, ni qu'on me raisonne pour m'aider à voir l'amour. Ah, ah. Besoin de personne quand je me suis fait ma loi. Besoin de personne quand elle est venue vers moi. Je crois que j'ai dit oui, oui. Oh, et je l'ai conquis toute seule. Il m'a offert toutes ses nuits. Je crois que j'ai tout pris, que j'ai tout pris. Ah, besoin de personne pour choisir le chemin de ma vie. Besoin de personne. Personne, quand je me suis fait ma loi, besoin de personne, quand elle est venue vers moi. Oh, vers moi. Mais je l'ai conquis toute seule, il m'a offert toute sa vie. Oh, je crois que j'ai dit oui. L'amour.